Bonjour à tous, je vais vous présenter les personnes invitées à ce panel. En guest star, nous avons notre ami Larry Niven. Et je vais vous présenter, bon, je ne pense pas que ce soit la peine de présenter Larry Niven, que vous connaissez certainement, dont vous avez lu les livres, mais je reviendrai évidemment sur quelques titres. Je vais vous présenter donc les personnes qui vont participer à cette table ronde qui est consacrée au thème de la frontière dans la littérature américaine. Donc, ma collègue Anne-Marie Paquet-Déris, qui est professeure de littérature et de cinéma américain à l'Université de Paris 10, qui a beaucoup publié, notamment sur le cinéma. À côté, Gilles Menegaldo, qui est professeur à l'Université de Poitiers, professeur de littérature américaine, et qui a beaucoup écrit notamment sur Lovecraft, sur le fantastique, sur Dracula, qui a énormément publié sur la littérature fantastique et qui maintenant se consacre plutôt au cinéma. Et puis Thierry Gendrocq, qui est psychologue, psychanalyste, qui est auteur d'articles sur la science-fiction, le fantastique, et qui est l'auteur d'un essai sur les tueurs en série. Voilà, alors bien sûr, à mes côtés, Larry Niven, qui est un grand auteur de science-fiction contemporain, qui est né en Californie, qui est diplômé en mathématiques et qui vit, je crois, dans les environs de Los Angeles. You don't have a translation? What? You do have a translation?
Nothing is happening.
Pour les techniciens, il y a un problème pour la traduction. Attention, canal traduction. Regarde. Donc, Larry Niven est le créateur, notamment, du concept de known space, qui d'une certaine façon...
Can you hear me, sir?
...nous faire un lien avec notre sujet, la frontière, mais on lui posera bien sûr la question. En 64, il a sorti Tales of Known Space, puis L'Étoile Invisible, une série qui s'appelle Manx in Wars, une sorte de space opéra, et puis bien sûr peut-être l'œuvre pour laquelle il est le plus connu, notamment en France, qui est le cycle de l'anneau monde, Ringworld, qui a commencé en 70 et qui se poursuit, je crois, bon, il y a eu en 2004 encore une suite. Autre série, Co-Dominium, qui est co-écrit avec Jerry Pournelle, et puis il faut le savoir, Larry Niven a également écrit de la fantasy, quelquefois avec Jerry Pournelle, et notamment Inferno ou The Flying Sorcerers. Mais je lui posais à l'instant la question sur cet intérêt pour la fantasy. Il me disait que c'était encore la science-fiction qui constituait la majeure partie de ses productions. Alors, merci à tous en tout cas, et merci à Larry Niven de participer à cette table ronde. Le sujet que nous allons traiter est gigantesque, il faut bien le dire. Nous allons essayer donc de définir le concept de frontière dans la sphère culturelle nord-américaine et montrer à quel point donc le concept de frontière, avec un F majuscule, qui est tout de même différent de ce que nous, Français, on appelle des frontières territoriales ou géographiques. Le concept est légèrement différent en américain. On va essayer de voir en quoi ce concept de frontière a pu inspirer, a pu influencer, a pu modeler un certain type de comportement, un certain type de comportement aussi, un certain type de production culturelle qu'on trouve encore aujourd'hui. Bien sûr, la frontière, comme vous le savez, s'est achevée en 1890, c'est-à-dire que l'Amérique du Nord a été continentalisée, comme on dit, entre grosso modo 1830 et 1890. Donc ce qu'on a appelé la frontière, je vous le rappelle, c'est une sorte d'axe symbolique d'axe imaginaire qui va d'est en ouest et qui se déplace au fur et à mesure de la progression des pionniers, de la progression de la civilisation. Ça c'est une donnée, comment dire, historique et géographique, mais pour nous, plus intéressés, disons, par la science-fiction ou l'imaginaire ou même le fantastique ou le western, bien sûr, la frontière, c'est aussi évidemment un grand territoire de l'imaginaire qui a alimenté des quantités de livres, de romans, de nouvelles, et aussi, mais nous n'en parlerons pas maintenant parce que nous allons parler de ça cet après-midi, énormément aussi de productions cinématographiques. Donc, peut-être la première question que je poserai à Larry Niven, c'est d'une certaine façon, en tant qu'Américain, en tant qu'écrivain américain, quelle est sa conception de la frontière et en quoi cette conception a pu orienter son inspiration ?
Alors, ok, je vais parler près du micro. Mesdames et messieurs, Arthur Clarke a le mieux parlé, en fait. Ce n'est pas une frontière comme était la frontière de l'Ouest, en fait. Hein. Nous, si nous allons vers Mars, nous allons le faire avec des dépenses énormes, des tests, des formations. Il faudra que l'on trouve les meilleurs d'entre nous. Et là, ce ne seront plus donc des hommes de la frontière, comme on a pu avoir ces pionniers de la frontière américaine. Ces pionniers de la frontière américaine, là, se déplaçaient. C'étaient souvent des exclus, des entrepreneurs aussi, bien sûr. La vue, enfin, l'opinion d'Arthur Clarke est différente. En ce qui me concerne, j'ai toujours évité de parler de la frontière dans mes écrits. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais j'ai toujours mis en place une civilisation qui avait déjà évolué. Et donc, ils sont chez eux. Ce n'est plus une frontière qu'ils recherchent. Larry Wu, bien sûr, s'élève contre cette frontière lorsqu'il a découvert ce Ringworld. Mais donc, c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge, qui a une expérience, qui vit dans un environnement, mais qui veut en sortir. Je n'ai pas toujours réussi à éviter ce concept de la frontière. Il y a des frontières aussi temporelles. Dans les fantaisies qui s'appellent The Magic Goes Away, les villes brûlent, les tours brûlent, et les nouvelles, donc, j'en ai parlé quelquefois, mais cette magie qui faisait que les mythes fonctionnaient, comme une ressource, en fait, renouvelable. La frontière, en fait, se trouve à la limite de la règle de Dieu, bien sûr, hein, vers ce que l'on a aujourd'hui où la magie est très rare à trouver. Bon, j'ai plusieurs romans qui parlent de cette notion de la magie comme une ressource non renouvelable. Comment est-ce que je termine de tout ça, hein ?
Vous avez évidemment une conception particulière de la frontière. Évidemment, c'est un concept qu'on peut s'approprier individuellement, mais aussi collectivement. Est-ce que d'une certaine façon, en tant qu'écrivain de science-fiction, vous n'êtes pas, comment dire, vous ne vous inscrivez pas dans une génération qui a été marquée justement par cette épopée spatiale qui semblait d'une certaine façon la transposition de la conquête de l'Ouest dans l'espace. Je m'excuse, c'est une sorte de cliché, mais je crois que c'est important de le rappeler.
Comme vous le dites, oui, je n'ai pas transposé donc la conquête de l'Ouest dans l'espace. J'ai donc fait évoluer mes civilisations de rien à chaque fois. Cette frontière, c'est les lois, en fait, qui façonnent, qui sont façonnées avec ce que j'ai écrit, l'anneau monde, dans des conversations avec certains collègues, j'en ai parlé, oui, bien sûr. L'anneau monde, c'est des barrières, mais il n'y a pas de mur. Parce que tout, en fait, dans cet anneau monde évolue différemment. Il n'a pas besoin d'être séparé, en fait. Il y a une concurrence pour le même espace, que ce soit les grass eaters par rapport à d'autres espèces. Les ringworms, en fait, sont séparés puisque il y a des montagnes qui sont faites par ce qui était auparavant au fond de la mer et qui se retrouvent donc dans cet anneau monde. Bon, je ne vais pas décrire tout ceci, bien sûr, mais la base de tout cela, c'est qu'il y a des montagnes qui changent tout le temps de forme. Parce qu'on en ajoute toujours au sommet. Et là, il y a toujours une frontière, oui, peut-être. Puisque les habitants de ces montagnes doivent se déplacer de temps en temps. Doivent partir de temps en temps.
Est-ce que d'une certaine façon, parce qu'on va, si vous le permettez, nous allons élargir à la littérature américaine en général, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a au fond de l'imaginaire américain quelque chose tout de même qui est en prise directe avec l'histoire de la colonisation, c'est-à-dire la conquête de la wilderness, le contact avec l'étrange, l'inconnu, la rencontre avec des formes de vie et des paysages qui étaient tout à fait nouveaux? Est-ce que vous ne pensez pas que ce choc de l'inconnu a profondément marqué l'imaginaire américain, aussi bien d'ailleurs dans la production réaliste que dans la production fantastique ou science-fictionnelle?
Bien sûr, vous avez raison. Nous avons été élevés dans ce concept de la frontière, même si pour nous, la frontière a disparu. Mais bon, il y a quelque chose à noter sur l'histoire américaine, cependant. Si on dit que ceci est la côte est, la côte ouest, voilà. Donc, et qu'il y a donc le continent nord-américain. Donc on s'est déplacé donc d'est en ouest, vers le Midwest d'abord. On a commencé à être arrêté par les montagnes rocheuses. Ensuite, on a fait un saut au-dessus donc de ces montagnes rocheuses. Donc on a découvert de l'or en Californie. Et donc pour la communauté donc de 1840 qui allait à la recherche de l'or, c'était donc une frontière, vraiment, oui. Et ils se sont développés, ils ont construit à partir de là. Voilà la façon dont on pense. Toutes les frontières, d'un seul coup, donc, se sont retrouvées sur une surface très très large, en fait, avec des milliers d'espèces qui pouvaient donc évoluer.
Je sentirais que vous aurez envie de le faire, surtout. Gilles ?
Oui, je voulais, puisqu'on, Larry Niven vient de terminer avec le mot origine, je vais revenir un petit peu à l'origine, justement, de cette fascination, disons, pour justement la frontière, et en particulier la frontière sauvage, la wilderness, hein, comme on dit, qui implique d'ailleurs une terre sans Dieu. Et je pense que ça a influencé évidemment beaucoup d'écrivains, et pas seulement des écrivains américains d'ailleurs. Je pense en particulier à Conan Doyle et son rapport avec justement cette wilderness, hein, la manière dont il situe certaines de ses histoires aux États-Unis avant de faire un retour en Europe. Je pense évidemment à Stevenson. On vient de parler des mines, hein, des mines d'or. On sait qu'il a écrit un roman, un récit plutôt, qui s'appelle Silverado Squatters. Hein, Silverado, oui, c'est ça, oui. Et que lui aussi, disons, a beaucoup voyagé. C'est un grand voyageur. Il a voyagé dans beaucoup d'endroits, mais en particulier aux États-Unis, effectivement, en Californie. Et puis, je voudrais donner un exemple, alors, plus. À mon avis, plus séminal par rapport en tant que matrice de la littérature américaine, et pas seulement de la littérature américaine, l'exemple d'Edgar Allan Poe, qui est au confluent de différentes, on va dire, traditions, qui est à la fois qui revisite en quelque sorte la tradition du roman gothique, en disant bien que son gothique n'est pas en Allemagne, mais c'est un gothique de l'âme. Autrement dit, il étend une frontière mentale, en quelque sorte, il traverse une frontière qui est beaucoup plus mentale, mais qui revisite aussi à sa manière, dans certains de ses récits, notamment, je pense, aux aventures d'Arthur Gordon Pym, qui réécrit en quelque sorte le mythe de la frontière en le transposant en aventure maritime et au lieu de la découverte effectivement des territoires sauvages où habitent les Indiens, il le transpose sur une île avec un peuple, les Tsalaliens, qui est une sorte de métaphore effectivement aussi de la colonisation. Et il reprend également cet aspect en revisitant Lewis et Clark, et bien sûr Loric pourra en parler beaucoup mieux que moi, avec un récit qui est très peu connu, qui s'appelle Le journal de Julius Rodman. Donc Poe est quelqu'un qui se situe dans cette question de la réécriture justement de la frontière. Et à un autre niveau, on pourrait dire aussi que Poe est quelqu'un qui s'intéresse à la frontière du paradigme humain, hein, c'est-à-dire qui s'intéresse justement au psychisme de l'homme, comment il peut évoluer justement à la frontière entre normalité et folie. On sait que beaucoup de ses narrateurs sont des narrateurs fous et meurtriers, d'ailleurs souvent les deux. Et donc voilà, donc je pense que Poe est quelqu'un de très important, et on sait en plus, alors toujours pour faire le lien avec la question de la frontière générique cette fois, que Poe est évidemment un auteur étiqueté entre guillemets fantastique ou gothique selon les critiques, mais qu'il est aussi un auteur qui a écrit des aventures maritimes justement, et qu'il est aussi bien sûr l'inventeur du récit policier avec son fameux détective Auguste Dupin. Donc il est aussi de ce côté-là de la frontière ou des frontières génériques. Voilà, pour dire un petit peu les choses. Et évidemment, l'influence de Poe est immense sur la littérature américaine, comme on sait, et sur la littérature mondiale, de manière générale.
Merci Gilles. Anne-Marie ?
Oui, alors si... Merci. Si on repart de Poe, qui serait un peu, dont les récits seraient un peu la matrice, justement, de ce motif de la frontière dans la littérature américaine, on en arrive à cette autre charnière qui est la fin du 19e et le début du 20e, et en particulier... à entre autres des écrivains naturalistes qui finalement ne sont pas très connus en France mais dont les adaptations au cinéma sont beaucoup plus connues, comme par exemple MacTiggs qui a donné l'un des chefs-d'œuvre du cinéma muet dont on parlera plus tard, qui est un grand roman naturaliste de Frank Norris et qui reprend ce voyage à travers le territoire et cette appropriation du territoire avec des scènes entre autres extraordinaires au début, en ouverture et en fin de roman, donc MacTiggs, une histoire de San Francisco, qui se déroule entre autres dans les montagnes rocheuses et dans la vallée de la mort. Et c'est très intéressant parce qu'on a, des scènes vraiment matricielles de, par exemple, ce dont on parlait avec Larry hier, de Pulp Fiction. Alors, pas le film, mais cette littérature, ce genre de littérature populaire qui se publiait très souvent dans des journaux par épisode à la fin du 19e et au début du 20e. Des conflits typiques de romans du genre western qui ont été adaptés après au cinéma, avec deux personnages qui ressemblent étrangement justement à des cowboys qui s'affrontent, en particulier dans la dernière scène de MacTiggs, une histoire de San Francisco. Au-delà des naturalistes, ça c'est vraiment la frontière justement entre le 19e et le 20e, on arrive à toute cette, j'entendais tout à l'heure, territoire de l'imaginaire, frontière psychologique, on en arrive à une notion de frontière fictionnelle et aux grandes expérimentations d'écrivains comme par exemple John Dos Passos, entre autres dans Manhattan Transfer, avec une sorte d'expansion de ce territoire de la ce territoire mental du lecteur, où au début de chaque chapitre, dans une structure extrêmement éclatée, et où on retrouve des personnages très épisodiquement au fil du récit, on trouve ces sections qui représentent en fait des passages, par exemple, de l'histoire mondiale, qu'on appelle newsreels en anglais. Donc ça, tout d'un coup, on a au début d'un chapitre une vision de l'actualité mondiale. Et on a aussi des plongées dans une intériorité mentale d'un personnage qui ne reviendra pas forcément par la suite. Donc là, on est vraiment en plein cœur de la frontière dans le sens frontière fictionnelle. Et ça se poursuit, bien sûr, bien après les années 30.
Évidemment. Merci. Thierry, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, ça ne marche pas ? Essaye. Oui, ça
va. Oui, excusez-moi. Moi, je voudrais revenir à un niveau historique, à des choses plus proches de nous et ce qu'on a appelé aux États-Unis l'astrofuturisme. Et l'astrofuturisme, c'est toute une branche de la littérature et des recherches technologiques qui est très, très américaine, qui a été accompagnée, évidemment, en Occident, mais à un autre niveau, et qui a eu trois grandes périodes. Il y a une période dans les années 50, au moment du Golden Age of Science Fiction, le fameux âge d'or de la SF. Il y a une grande période dans les années 70, et cette autre période à laquelle appartient Larry Niven, de cette période d'astrofuturisme où on imagine des mondes extérieurs, on imagine des rencontres avec grands renforts de technologie, on imagine la conquête d'espace extérieur très très lointain. Et on arrive aujourd'hui à la troisième grande période qui a été débutée avec d'autres auteurs comme Kim Stanley Robinson et avec la trilogie martienne où quelque chose de l'humanisme domine à nouveau alors que dans les années 70 c'était surtout la grande technologie et l'exploration. Voilà, je voulais un petit peu remettre les choses dans leur axe plus moderne de la fin du XXe siècle pour qu'on puisse continuer.
Ok. Le mot populaire a été. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce mot parce que ça me semble très important par rapport d'abord au lieu où nous sommes et puis notre intérêt pour la science-fiction, l'imaginaire en général. Ce qui s'est passé au XIXe siècle aux États-Unis, c'est aussi une frontière qui forge une mythologie populaire qui elle-même va enfanter tout un imaginaire d'une création extraordinaire, un peu tout azimut, il faut bien le dire, il faut faire un tri gigantesque entre des productions très cheap, la Pulp Fiction, mais c'est tout de même très intéressant de voir que au moment justement où s'achève la frontière, c'est-à-dire où les immigrants, les chariots des pionniers arrivent jusqu'en Californie après pas mal d'épisodes qui sont pas toujours très glorieux pour nos amis américains, notamment avec les Indiens, eh bien, il y a une forme de littérature, certains diraient une proto ou une sous-littérature qui se crée, qui est authentiquement populaire et qui, en fin de compte, va suivre la conquête de l'Ouest, le western, hein, bêtement. Il ne faut pas oublier que nous, pour nous, Français, le western, c'est avant tout du cinéma, mais le western commence aussi par de l'écrit, hein, à des publications que nous, on appellerait feuilletonesques, hein, qui vont avoir énormément d'impact sur le public et qui vont certainement entretenir chez les Américains une certaine forme de romantisme lié justement à la progression de la frontière. Et je me souviens notamment de quelqu'un qui est très peu connu, qui s'appelle Louis St. Aaron's, qui, dans les années 1890, produit des brochures qui vont curieusement associer plusieurs genres déjà, notamment la science-fiction et le western. Donc d'une certaine façon, c'est un creuset, hein, c'est pas seulement le melting pot, mais c'est, pour reprendre le jeu de mots de Terra Morsi, un melting plot, c'est-à-dire une sorte de creuset qui associe plusieurs genres qui petit à petit vont se dissocier, quelquefois se réunir dans l'histoire, et la science-fiction fait partie de tous ces embranchements très intéressants. Et je crois que, d'une certaine façon, les grands auteurs américains, comme M. Niven, sont, qu'ils le veuillent ou pas, un petit peu inscrits dans cette grande lignée dite populaire. Si le gothique continue de fonctionner, si la science-fiction continue de fonctionner, si le fantastique, le gore, enfin tous ces genres ou sous-genres continuent de proliférer un peu partout, notamment aux États-Unis, je crois que justement ça vient de ce côté populaire de la frontière ayant été popularisée par des auteurs qui sont pour la plupart oubliés. Juste un mot tout de même, parce que bien sûr, tous les auteurs qui ont été cités sont très importants, mais tout de même, je crois que James Fenimore Cooper, en créant le personnage de bas de cuir, Leather Stocking, dans les années 1840, va créer un véritable mythe qui dépasse de beaucoup le roman d'aventure, hein, avec une gigantesque influence dans son propre pays et également en France, hein, faut pas l'oublier. Hein. Le dernier des Mohicans, bien sûr. Hein. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Neven?
Oh, yeah.
Oh oui, oui, oui. Nous en sommes toujours à une frontière. Il y a des hauts et des bas dans l'histoire. Il y a une vingtaine d'années, si on en vient en fait à la chute de l'Union soviétique, on était presque prêts en fait. On pensait que l'on l'a provoqué. C'est peut-être le cas. Mais bon, lorsque on s'est évolué, on a connu ceci comme étant la défense, l'initiative de défense de l'espace, la guerre de l'espace, hein, ce qui a été développé aux États-Unis. On pensait que l'on avait trouvé quelque chose qui pouvait faire s'effondrer l'Union soviétique. On y pensait presque, hein. On n'avait pas fait de plan, hein. Les frontières disparaissent toujours par surprise. Il y a eu des points de croisement dans l'histoire, oui, et c'est bien de le faire remarquer. La science-fiction, c'est en fait la seule littérature qui se base sur cette notion que les choses changent, que l'histoire change. Je pense que toutes mes histoires, en fait, ont toute une frontière, mais c'est généralement une frontière temporelle qui quelquefois change. Et le changement le plus important que l'on puisse concevoir, c'est soit, en fait, un contact avec des extraterrestres, puisque ces extraterrestres que vous allez contacter ont suffisamment de puissance pour pouvoir voyager jusque chez nous, et donc sont des êtres supérieurs. Ou alors, le défi le plus important pour un écrivain, en fait, c'est d'écrire sur un personnage qui est plus intelligent que l'auteur lui-même. Les êtres humains super intelligents sont le plus grand défi pour nous. On ne peut pas écrire sur ces choses-là, mais il faut vraiment écrire dans le temps. Voilà, merci.
Bon, moi, je voulais évoquer peut-être un autre jalon, mais qui rejoint cette idée de contact avec l'alien, hein, l'étranger. Alors, on peut mettre beaucoup de choses derrière ça. Et cette idée de super-intelligence, d'intelligence supra-humaine, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a un jalon important par rapport à ça, ce sont les années 30, et ce sont effectivement les pulp fiction, les fictions populaires qu'on trouve dans des magazines comme Weird Tales, qui sont maintenant des collectors, comme on dit, et où effectivement il y a des westerns, il y a des policiers, enfin des histoires criminelles, il y a des histoires gothiques, il y a des histoires d'horreur, etc. Et il y a parmi ces auteurs donc Robert Howard par exemple, qui a beaucoup exploité ce motif de la frontière, et il y a évidemment Lovecraft, et donc qui lui déplace en quelque sorte les frontières à la fois géographiques et ontologiques, hein, en s'intéressant alors d'une part au ce qu'on appelle les terrae incognitae, c'est-à-dire les espaces qui ne sont pas encore découverts, qui viennent à peine d'être découverts dans les années 20, au moment où il commence à écrire, c'est-à-dire par exemple les pôles, hein, déjà Edgar Poe était fasciné par les pôles. Lovecraft écrit une de ses nouvelles les plus célèbres, Les montagnes hallucinées, qui se situe justement au pôle, et où la descente, la progression spatiale, la découverte spatiale se double d'une progression, d'une régression temporelle, hein, en profondeur spatiale mais aussi temporelle, et on s'aperçoit finalement que l'homme n'est qu'un. On relativise totalement l'idée de l'humain, du paradigme humain, et le rapport de l'humain avec l'intelligence. L'humain n'est pas le seul être intelligent, il a été précédé par des races beaucoup plus. Des races supérieures, effectivement, mais qui sont perçues en même temps comme des, comme vous le savez, comme des entités maléfiques, comme des monstres, etc. Et donc il y a toute cette question de la frontière, justement, entre la divinité, le monstre, l'humain, voire l'animal. Et on sait aussi que Lovecraft s'est beaucoup intéressé à l'hybridité, justement, entre l'animalité et l'humanité. Voilà, donc tout ça, on voit aussi comment ça constitue un creuset pour la science-fiction de l'âge d'or dont parlait Thierry tout à l'heure, des années 50. Et je voulais juste poser peut-être une question à Larry Niven à ce niveau-là. L'une des grandes admirations dans le domaine science-fictionnel de Lovecraft, c'est Olaf Stapledon, hein, et notamment Last Man and First Man, les premiers et les derniers, qui justement inventent des mondes extraordinaires et montrent que l'homme n'est qu'un épiphénomène dans l'histoire cosmique, pour aller dire. Et je voulais savoir ce qu'il pensait justement de Stapledon, est-ce qu'il pense que ça a été un moment important de l'histoire de la science-fiction.
Stapledon était un géant. Oui, c'était vraiment une fabuleuse période. Sans Stapledon, nous aurions pris un chemin différent, je pense. Il y a un avant et un après. Cependant, je pense qu'il faut se dire que la communauté scientifique, la communauté de la science-fiction aussi, a créé un dialogue, car chaque histoire dialogue avec une autre histoire qui a été écrite. Certains écrivains ont ouvert de nouveaux champs, nouvelles priorités, ils ont donné leurs opinions, ils ont élaboré certaines théories. Stapledon a été vraiment un générateur d'idées que nous exploitons toujours à l'heure actuelle, il est vrai.
Première nouvelle, quand vous l'avez publiée à Los Angeles chez Ballantine Books, qu'est-ce qui a été un generator, comme vous dites?
Alors, je souhaiterais rendre hommage à Frederick Paul, qui était éditeur lorsque j'ai commencé à écrire. Je lui ai proposé ma troisième histoire et je lui ai proposé, disons, les premières histoires qui ont été publiées, et l'un était une nouvelle, World of Tales. Ça s'appelait Judy Lynn Benjamin. Je voulais trouver un autre nom, mais enfin bref. Frederick Paul a acheté ce roman, et après est allé à Ballantine Books, et aller parler au responsable de Ballantine Books. C'est comme ça, finalement, que je suis devenu romancier. Vous vouliez en savoir un petit peu plus? C'était une belle histoire. Jack Gang, un artiste, a fait une dizaine de portraits des extraterrestres, des aliens, qui apparaissaient dans mon livre.
Le court roman a... roman beaucoup plus imposant. Comment est-ce que vous avez fait vous avez suivi là? Comment s'est passé le transfert en fait?
C'est pas si compliqué, je pense en fait. On dirait que c'est un peu une nouvelle étendue, hein, World of Tales. Moi, j'aime bien écrire les nouvelles parce que dans les nouvelles, on peut faire nos erreurs beaucoup plus rapidement que dans un roman. C'est quand même plus agréable. Je suppose que ce premier roman, maintenant, peut paraître un petit peu maladroit, bien sûr. Aujourd'hui, j'écris des romans qui sont mieux ficelés, pour ainsi dire. Destiny's Road, la route de la destinée, où on ne quitte jamais la planète, finalement. Et l'histoire est un peu un cycle, une boucle.
Comment questionner Larry Niven sur le concept de macro-life, de vie macro, qui avait été mis en place dans les années 70 et qui avait imaginé la conquête des espaces extérieurs par des artefacts qui n'étaient rien d'autre que des machines à l'échelle planétaire. Et Larry Niven, en inventant Ringworld, l'anneau monde, donne un exemple brillant de ce que c'est que le macro-life, qui avait été développé par d'autres tels que Zebrowski, même Greg Baird dans les années 80. Voilà, est-ce que vous pourriez en dire quelque chose?
J'adore la grosse ingénierie, pour ainsi dire. Macro-life, la macro-vie, c'est un formidable courant de grande ingénierie. On a pu appeler ce genre d'histoire la grosse histoire, avec des objets très imposants, mais on peut trouver d'autres exemples dans Rendez-vous avec Framabert, Quand j'ai écrit Les Nomondes, c'était le premier d'une nouvelle génération, je dirais, de livres. Personne n'avait appréhendé avant depuis un bon moment en tout cas, ces idées de gigantisme. Nous étions un peu une nouvelle vague en Angleterre et aux États-Unis, une littérature qui mettait l'accent sur les détails. Enfin, à l'époque, on mettait l'accent sur les détails, sur les choses comme ça, et ce sont des bons éléments. Mais il y avait également des innovations typographiques qui n'ont pas forcément, sont pas forcément restées dans l'histoire de la littérature, mais... Que voulez-vous savoir sur cette question ? C'est vrai que si on veut rendre ça en vrai, les effets spéciaux sont vraiment très chers.
Ça amène la frontière into deep space, dans les profondeurs de l'espace, et ça amène des terriens comme des aliens qui fabriquent des artefacts de l'ailleurs. C'est nous qui allons vers l'extérieur, et l'extérieur vient à nous à travers ces machines planétaires.
Oui, c'est vrai que on commence à se dire qu'on va finalement peut-être pas rencontrer des aliens, et on leur a donné plein d'occasions de nous contacter. Bon, il se peut que j'ai tort et qu'on me prouve le contraire dès demain, hein, ou la semaine prochaine, mais... Le fait est qu'on doit faire nos propres constructions sans les aliens. Si on doit faire de grandes choses à l'avenir, il faudra bien sûr en passer par là.
Oh, yeah.
Oh oui, sans aucun doute. Bon, je ne pense pas que ça se fera avant la fin de ma vie, mais bon, cela dit, quand on écrit des romans sur l'avenir lointain, c'est très difficile de se faire prendre, entre guillemets, qu'on nous prouve qu'on est tort. Parce que, le fait est que Mercure n'opère pas une révolution comme celle que j'avais décrite dans mon premier roman. Mais bon. L'anneau monde parle de choses qu'on ne peut pas encore toucher pour l'instant. Donc c'est quelque chose d'assez improbable pour l'instant.
J'ai Larry Niven, effectivement, parce qu'on a la chance de l'avoir, mais il y a deux géants aussi, me semble, enfin en particulier un, enfin deux, à mon avis, deux auteurs qui ont révolutionné en quelque sorte peut-être la science-fiction dans leur recherche demande d'autres frontières, mais qui sont peut-être plutôt du côté du psychique, du mental. C'est Theodore Sturgeon, Le cristal qui songe, entre autres, hein, mais beaucoup d'autres choses aussi. Et puis, bien sûr, un autre niveau, mais ça se rejoint par certains côtés, Philip K. Dick, avec en particulier ces univers simulacres et ce brouillage des frontières, justement, c'est-à-dire ce brouillage des frontières. Justement, là, on est plutôt du côté du brouillage, blurring, des frontières entre une réalité et d'autres niveaux de réalité. Je voulais savoir si ces auteurs, est-ce que ces auteurs l'ont inspiré ou est-ce qu'au contraire il s'est démarqué dans sa propre production.
Ah, bien sûr, Philip K. Dick, Theodore Sturgeon sont des sources d'inspiration pour tous les écrivains. Isaac Asimov a déjà dit de moi que j'étais son fils spirituel. Et donc, moi, j'avais envie de lui dire que je suis le fils spirituel de tout le monde. Je voulais écrire comme Sturgeon, comme Dick, et je pense que dans une certaine mesure, j'ai pu y parvenir. Cependant, ils étaient tous les deux un peu cinglés, bon, faut le dire. Et je pense que vous avez besoin de cette folie pour vous enfoncer dans le fantasy, aussi profond qu'ont pu le faire ces deux auteurs, à leur manière, bien sûr. Mais Sturgeon a eu un bloc de l'écrivain, en fait, un blocage de l'écrivain pendant 7 ans, par exemple. Ça lui est arrivé. Bon, moi, ça ne m'est pas arrivé, mais il y a quelque chose d'irritant par rapport au succès de Philip K. Dick. parce que il a eu du succès quand un succès posthume finalement. Il n'aimait pas que les auteurs participent à des adaptations cinématographiques de leur œuvre. Et il disait qu'il ne faudrait pas que quelque chose de, on voit à Hollywood que les films sont adaptés d'œuvres de personnes décédées, finalement. Et j'espère, pour ma part, éviter un tel succès et plutôt avoir un succès non posthume.
D'enfourcher, d'estrier vers de nouveaux lointains. J'ai envie de demander à Anne-Marie, qui est peut-être plus concernée par la littérature contemporaine, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la littérature américaine par rapport au thème de la frontière ? On aurait pu croire que le thème de la frontière disparaîtrait progressivement, au fur et à mesure, bien sûr, de du settlement, de l'installation définitive des frontières. Est-ce qu'en fin de compte, par exemple, il y a le renouveau actuel, enfin pas le renouveau, l'émergence de nouveaux courants, par exemple ethniques, Chicanos, est-ce que d'une certaine façon ça renouvelle le thème de la frontière ?
Alors j'avoue qu'il faudrait que je me replonge, par exemple, dans ce qui se fait, en littérature afro-américaine, par exemple, ou d'accord, chicana. Mais sans parler littérature de certaines communautés bien identifiées, on peut tout simplement revenir, par exemple, à ce qu'a fait Cormac McCarthy et l'adaptation récente, d'ailleurs, de La Route. On reste dans la littérature mainstream. Et finalement, ce dont on parlait avec Larry très récemment, ça se rejoint. Il n'y a plus cette distinction entre littérature populaire avec un petit P et puis littérature savante. Ici, on est dans une... Alors, est-ce que c'est une forme d'hybridité ? En tout cas, si c'est une forme d'hybridité, c'est... à la fois une forme d'hybridité générique, et puis c'est très satisfaisant intellectuellement quand même. On a parlé un petit peu de La Route et de son adaptation, La Route de McCarthy. Je voudrais savoir ce que Larry en pense.
Sans pour autant connaître, disons, la question de l'hybridité, je pense qu'on est de toute façon attiré par la question de l'hybride. Tout bon auteur que je connais aime l'hybridité, par exemple se servir de Sherlock Holmes dans une ambiance science-fiction ou de fantasy, par exemple. On écrit des polars, mais qui sont aussi des polars de science-fiction. Et le fait est qu'au bout d'un moment, ça devient difficile de cette hybridité. Est-ce que je me départ du sujet, là ou...
Qui a mis chemin est l'idée d'hybridité générique. Est-ce qu'on peut éventuellement peut-être partir dans cette direction dans les dernières histoires, les derniers récits que vous avez publiés?
Excuse-moi, Anne-Marie, si tu pouvais définir hybridité générique pour nos amis.
Alors oui, c'est vrai qu'on est tout de suite là du côté du...
Je voudrais préciser cela. C'est assez facile, finalement. La fantasy, c'est toute la littérature qui n'est pas une narration stricte, disons. Et la science-fiction... c'est quelque chose qui se passe dans des conditions définies. Et la littérature, c'est une bulle, je dirais, dans le domaine de la science-fiction. Donc les hybrides pour la science-fiction, c'est assez facile. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'écrire tant que vous êtes en dehors du temps présent et du jour, du quotidien. C'est bon, c'est un hybride pour moi.
L'éventuelle hybridité entre fantasy et science-fiction. Parce que vous, vous aviez quelques hésitations apparemment dans votre écriture sur la frontière qui est parfois difficile à négocier entre ces deux, qu'est-ce qu'on va dire, genre, fantasy, sous-genre peut-être.
Je dirais qu'il n'y a pas de limite entre la science-fiction et la fantasy. Il y a une zone frontière, disons, très vaste. C'était intéressant dans l'histoire de notre domaine ici. Il y avait la science-fantasy. Donc là, on parlait de pouvoir psychique, par exemple. Et puis ça s'est vidé de sa substance. C'était soit de la science-fiction, soit de la fantasy, mais pas, on n'était pas dans cette zone frontière. Mais jusqu'à un moment donné où il y a eu deux romans de quatre volumes de Julian May, qui avait écrit pendant des décennies pour les enfants, mais qui est revenu avec vers la littérature adulte avec ce formidable roman de quatre tomes, et Jay Wolfe. L'apprenti du tortionnaire. Il a appelé ce livre le livre d'un nouveau fils. Quatre tomes, encore une fois. Une fabuleuse science-fiction qui se passe dans l'avenir. Et des exilés qui explorent le passé d'il y a 6 millions d'années. C'est très intéressant. La science-fiction et la fantasy ne sont pas exclusif l'un vers l'autre. On peut faire tout ce qu'on veut, faire tous les mélanges qu'on veut et toujours trouver un lectorat. Toujours trouver un public.
Qui est intéressante, il dit « Les frontières ne sont plus ce qu'elles étaient et pourtant elles sont inchangées. » Et d'une certaine façon, on s'aperçoit évidemment qu'il y a une évolution historique, géographique, géopolitique, universelle presque du concept des frontières, et pourtant le concept de frontières continue de fonctionner dans l'imaginaire. Alors, avant peut-être de vous laisser conclure sur ce point, je voudrais dire tout de même que ma petite recherche personnelle sur le sujet me conduit à rappeler que la frontière est certainement un mythe très positif, un mythe qui a enfanté je ne sais combien de livres et de films extraordinaires. C'est un mythe très fort vu qu'il a dépassé le cadre des États-Unis. Mais il ne faut pas oublier qu'un des fils conducteurs de la frontière, c'était la peur. Et dès le départ, et ça commence très tôt, la frontière dès le XVIIe siècle, d'une certaine façon, c'est une sorte de proto-frontière avec les puritains qui se mettent en place, et bien d'une certaine façon, la frontière, comment dire, presque symbolique, qui s'offre aux colons, c'est la frontière entre la nature sauvage et la civilisation. Dès le départ se crée une sorte d'opposition qu'on va retrouver mais à travers toute l'histoire de l'Amérique, aussi bien dans l'histoire événementielle que dans l'histoire des idées que l'histoire culturelle. C'est-à-dire qu'on ne progresse pas, on parlait tout à l'heure de la frontière, c'est la mobilité. Et les Américains ont cet avantage extraordinaire sur les Européens, c'est qu'eux, ils sont sans arrêt « on the move hein, » ou « on the road again hein, ». Mais il s'agit de bouger. Hein. Bon, ce bougisme, évidemment, s'oppose à l'immobilisme, au caractère sédentaire de l'Européen dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que cette mobilité, cette immobilité, cette dialectique a été, et elle est passée aussi par la peur, la terreur. On a employé le terme « alien » qui a été utilisé pour désigner les Indiens. Bon, les Indiens, en 1650, ils enlèvent les femmes et les enfants. Ça va créer un mythe qui est très connu, le mythe de l'enlèvement. Et aujourd'hui, on le retrouve avec l'enlèvement par qui ? Par les aliens. D'une certaine façon, la même histoire continue 300 ou 400 ans après. C'est étonnant de voir cette permanence à travers une évolution générique. On passe de l'autobiographie spirituelle de Mary Rawlinson en 1650 à des espèces de romans de science-fiction qui ne sont pas tous très bons, et qui tourne autour du thème de l'enlèvement. C'était juste un exemple que je voulais prendre pour montrer que tout de même, derrière le mot « alien », d'ailleurs, le film de Ridley Scott l'a installé dans l'imaginaire, c'est l'univers aussi de la terreur. C'est pas simplement ce qui enchante, c'est également aussi ce qui fascine, sinon ce qui terrorise. Voilà ce que je voulais simplement dire et rappeler par rapport à la frontière. Je vois le temps qui file, je voudrais laisser quelques minutes pour la salle, mais je vais peut-être, entre-temps, laisser la parole à mes amis pour conclure. Enfin, si on peut conclure sur un sujet aussi vaste.
Moi, je vais juste rajouter deux mots. Ce qui est absolument fascinant avec le mythe de la frontière, c'est qu'il est aussi assez souvent associé, finalement, à la, quand on pense repousser les frontières, repousser la nature sauvage, prendre le contrôle, à la notion de prendre le contrôle d'une nation, et par exemple à des grandes figures héroïques de l'histoire américaine comme Lincoln. Et dans toutes les dans de nombreuses représentations de Lincoln, et vraiment ça date de la genèse, hein, des premiers âges du cinéma, par exemple, entre autres, et aussi évidemment des romans, des nouvelles et des pièces, on voit qu'il est toujours associé à cette dimension de repousser la frontière. C'est celui qui est sorti dans le Midwest de cette situation de danger extrême, qui a réussi à s'élever jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État et qui a mis de l'ordre justement dans une nation au bord de l'éclatement, en particulier lors de la guerre civile. Et par exemple, Vincent Bennett, qui a écrit la pièce Abraham Lincoln en Illinois, se focalise justement sur cette dimension de l'homme qui a été capable de repousser la frontière et les frontières. Et ça, c'est absolument fascinant, parce que ça modèle beaucoup, beaucoup d'écrits dans la littérature américaine.
Merci.
Et juste un mot pour effectivement... ça marche pas celui-là.
Oui, juste un mot pour dire qu'il y a effectivement cette idée de repousser la frontière, d'aller toujours plus loin dans différents types de frontières, qu'elle soit géographique, spatiale, ou qu'elle soit mentale, psychique, etc. Mais il me semble aussi qu'il y a, dans la production contemporaine, depuis quelques années, que ce soit d'ailleurs en littérature et en cinéma, cette idée plutôt de créer des passages entre les différents mondes, entre guillemets, les différents univers psychiques, les différentes réalités. Donc on est plus du côté, justement, du brouillage. Je reviens à cette notion de simulacre, hein, que Baudrillard, entre autres, a bien mis en évidence, et on va reparler peut-être de ça plus tard, de manière plus en détail. Mais je crois qu'il y a les deux, en quelque sorte, en tension, ces deux processus en tension. D'une part, l'extension en profondeur, en largeur, à tous les niveaux de la frontière. Et d'autre part, la volonté de brouiller la frontière. Et justement, pour susciter un désir de fiction, justement, pour le lecteur aussi bien que pour le spectateur. Et ça vaudrait aussi bien, pour une partie de la littérature dite générale, mainstream, évidemment pour la littérature de science-fiction. Bon, je pense à des auteurs comme James Morrow, par exemple, pour des auteurs très contemporains, ou Neal Stephenson, etc. On n'a pas non plus parlé, évidemment, d'un auteur très important qui a été à l'origine de la cyberlittérature, hein, William Gibson. Donc, voilà, il reste encore beaucoup de choses à voir.
Merci. Thierry, et puis Monsieur Neven,
je vais faire court. Simplement pour rappeler que la question de la frontière est la question qui touche la subjectivité là où elle se trouve, c'est-à-dire dans le corps de chacun, que la première frontière c'est le corps, ensuite c'est l'autre, après l'autre c'est la nature, après la nature on a les grands espaces, après les grands espaces on a l'espace. Qu'est-ce qu'il nous reste de plus à explorer sinon nous-mêmes?
Okay. Merci Thierry. Mr. Neven.
Ok.
Bien, j'ai pu remarquer que tous les films occidentaux parlaient du fait de repousser la frontière, amener la loi sur les nouveaux territoires. Anne-Marie, votre idée est assez nouvelle pour moi, je la garderai en tête après mon séjour à Nantes, c'est-à-dire cette idée que les Mexicains considèrent la frontière, que les États-Unis, ce sont la nouvelle frontière. C'est-à-dire que, pour nous, je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle réalité qu'il va nous falloir appréhender. Mais c'est vrai que nous avons toujours eu des arrivants, des nouveaux arrivants, qui ont été assimilés dans la société. Voilà, je pense que c'était ma conclusion sur le sujet.
Évidemment, merci de la poser très très brièvement et avec une réponse très brève. Merci d'avance.
Il manque une frontière essentielle, The New Frontier de John Kennedy.
Pourquoi ?
You mean social borders, don't you?
Frontières sociales ? La nouvelle frontière de Kennedy, oui, c'était cette idée, c'était la frontière sociale, amener une nouvelle, un nouveau type de civilisation aux États-Unis, dans son cas. Alors, est-ce que ça a marché ? Je pense qu'on en est toujours au stade de frontière, effectivement.
Technologique et en même temps sociale, d'une certaine façon, représente toujours cette aspiration des Américains à aller toujours plus loin, à déplacer les frontières, pas simplement au sens spatial, mais quelquefois aussi au sens idéologique ou politique. Hein. En tout cas, merci à tous, merci de votre attention. Au revoir.